Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Reconnaître l'importance de Mossoul, ville martyre, tel était le sens de la visite du président français Emmanuel Macron le 29 août dernier dans la cité ravagée par la violence des combats contre Daesh en 2017. La mosquée Al-Nouri et l'église Notre-Dame de l'Eure, que le chef de l'État a visité, font partie des trois chantiers de reconstruction pilotés par l'UNESCO et financés par les Émirats arabes unis à hauteur de 50 millions de dollars. Cette initiative prévoit aussi de rebâtir des maisons patrimoniales de style ottoman dans le cadre d'un projet européen de 40 millions d'euros. Un chantier multiple qui n'avance pas assez vite, selon les habitants. La reconstruction du vieux Mossoul est un reportage réalisé en Irak par notre confrère Guilhem Delteil. À suivre, la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Ça, c'est l'état du mal.
Ce n'est pas l'état normal, ça, c'est l'état du mal. Ces quelques mots sont ceux d'un religieux chrétien irakien dans les ruines de la vieille ville de Mossoul. La cité fut le siège de l'émirat proclamé par l'État islamique dans le nord de l'Irak. 4 ans après sa reprise par les forces irakiennes, soutenues par une coalition internationale, elle porte encore de très lourdes traces de ses combats. Bonjour Guilhem Delteil.
Bonjour Eric.
Vous étiez à Mossoul il y a quelques jours. Les combats pour la libération de la ville ont été longs et intenses. À quoi ressemble-t-elle aujourd'hui ?
Eh bien, à l'arrivée dans Mossoul, vous traversez tout d'abord des faubourgs, des rues animées, avec une vie commerçante normale hein, pour une métropole de cette taille. Mossoul est la deuxième plus grande ville d'Irak. 1 600 000 personnes y vivent. Mais déjà, dans ces quartiers éloignés du centre, eh bien, les traces des combats sont visibles. Des immeubles portent notamment des impacts de balles. Et puis, eh bien, plus vous vous approchez du cœur historique, plus les marques deviennent omniprésentes. Dans la vieille ville, les immeubles éventrés se succèdent. D'autres habitations sont-elles totalement détruites, réduites à l'état de gravats. Et des bâtiments historiques ont aussi été abattus, comme la grande mosquée de Mossoul, la mosquée An-Nouri, celle-là même où Abou Bakr el-Baghdadi avait officiellement proclamé l'instauration d'un califat islamique. C'était en 2014. À Mossoul, son minaret incliné, comme la tour de Pise, était un repère. Le groupe État islamique a fait exploser la mosquée avant d'être chassé de la ville en 2017. Paolo Fontani est le directeur de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture en Irak.
Al-Nouri a été volontairement détruite. Donc nous, on a trouvé énormément de charges pas explosées, qui sont la raison pour laquelle il y a une petite partie qui est restée en place. Il y a vraiment très peu qui est resté. Le minaret aussi, des 53, 54 mètres qui étaient originellement, il y a une vingtaine qui sont restés. Toute la partie plus haute a été complètement détruite.
À quelques dizaines de mètres de la grande mosquée, le couvent Notre-Dame de l'Eure a lui aussi été largement endommagé, un peu moins que Al-Nouri, mais le lieu n'est plus le même, témoigne le père Majid Mekassi.
Le couvent d'avant, c'était un bel bâtiment extraordinaire. Vous voyez le clocher qui sonne tout le temps avec l'horloge. Et on a une belle histoire avec l'horloge aussi. Mais aujourd'hui, c'est détruit. Donc, on va rebâtir tout ça pour revenir à l'esprit de Mossoul, à l'ancienneté, la beauté de la culture. Et on ne laisse pas les choses détruire comme ça.
L'horloge du couvent faisait sa célébrité, elle lui avait procuré son nom. Cette horloge avait été offerte par l'impératrice française Eugénie au XIXe siècle. Autre bâtiment historique de la vieille ville à avoir été détruit, Eric, la grande église Al-Tahira des Syriaques catholiques.
Alors, le père Majid Mekassi évoquait une volonté de reconstruire. Guilhem, où en sont les efforts en la matière ?
Alors, c'est évidemment un travail de longue haleine hein, qui prend du temps, mais qui avance, assure le frère Olivier Poquillon, religieux chrétien qui vit à Mossoul depuis 2 ans.
Il y a beaucoup d'infrastructures qui se reconstruisent. Les ponts ont beaucoup traîné. Bon, le gouvernement irakien fait du bon travail, le gouverneur fait du très bon travail ici. L'argent qui est envoyé sert au projet auquel il est dédié. Et depuis qu'il est là, en 2 ans, toutes les rues sont goudronnées, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 2 ans. Le déminage, le déblaiement se fait à très grande vitesse.
Dans la vieille ville, les efforts de reconstruction tardent de plus à être visibles car l'intensité des bombardements a nécessité un gros travail de déblaiement et de déminage. Mais l'UNESCO a lancé en 2018, 1 an après la libération de la ville, une opération baptisée « Reconstruire l'esprit de Mossoul ». Les bâtiments historiques doivent être réhabilités grâce à un financement des Émirats Arabes Unis notamment. Abu Dhabi va financer la reconstruction de la mosquée An-Nouri, de l'église Al-Tahira et du couvent Notre-Dame de l'Eure.
Et l'opération ne se limite pas à la reconstruction de bâtiments historiques.
C'est en fait son objectif affiché. Elle se nomme, je le disais, reconstruire l'esprit de Mossoul. Elle se concentre donc aussi sur ce qu'a été culturellement la ville au cours des siècles. Une ville symbole d'ouverture, assure le frère Olivier Poquillon.
Mossoul, qui était la seule ville de l'Empire ottoman qui n'avait pas de quartier homogène. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de quartier arménien, chrétien, juif, mais il y avait dans les mêmes quartiers des gens de toutes les communautés. Donc l'esprit de Mossoul, c'est ça. Mossoul a sa prospérité, c'est une ville qui est vraiment une ville où les gens travaillent ensemble. La construction du minaret, de la grande mosquée, a été réalisée par des chrétiens et des musulmans. Et la construction du couvent Notre-Dame de l'Eure a été réalisée par des chrétiens et des musulmans. On a eu ici, devant, là, c'est la première école de filles de Mésopotamie, la première école normale d'institutrices de Mésopotamie. On a imprimé la première Bible en arabe, la première grammaire kurde. Donc voilà, toutes les communautés, les langues, etc. ont bénéficié de cet apport.
Et en rénovant les lieux de culte de différentes religions, l'UNESCO espère recréer un peu de cet esprit, rénover les emblèmes de la ville pour redonner son identité à Mossoul, explique Paolo Fontani, le directeur de l'UNESCO en Irak.
Ce qui est important pour nous, c'est que c'est un symbole un peu de la ville. En fait, les deux tours de Al-Adba, le minaret de la mosquée d'Al-Nouri, et le campanile ici d'Al-Sa se regardent et se parlent. Et c'était deux symboles aussi, même topographiques de la ville de Mossoul. On regardait l'heure dans l'église catholique et on se trouvait ces chemins dans les pittorelles de Mossoul en regardant l'inclination du minaret. Donc c'est symbolique un peu l'idée que ces deux lieux se parlent, des lieux de religions différentes, mais que nous on voudrait qu'ils vivent ensemble à nouveau dans Mossoul.
Mais Mossoul a été occupé par le groupe État islamique pendant 3 ans et les plaies de la population restent vives. Beaucoup de personnes ont fui, notamment les minorités. Le retour prend du temps, il est compliqué aussi. Les logements abandonnés ont été réattribués et sont occupés. Pas facile non plus de renouer avec des voisins qui ont pu être parfois de l'autre côté durant cette période. Mais le père Majid Mekassi veut croire en la possibilité d'une nouvelle coexistence.
On a besoin un petit peu encore du temps pour réaliser ça. C'est comme le temps de guérir. Ça vient de fur et à mesure, petit à petit. Mais maintenant, si vous voyez la jeune génération est toujours d'accord pour tendre les mains l'un pour les autres, sans penser à la religion, sans penser à l'appartenance politique. On est là pour rendre service au pays. Ça, c'est la nouvelle génération. Mais on est encore avec l'ancienne génération. Donc, on a besoin de temps.
La reconstruction permet aussi d'offrir du travail, des entreprises, des mossouliotes, des habitants de Mossoul en profitent. Plus de 1500 personnes sont actuellement employées sur les chantiers et ceci mêle musulmans et chrétiens pour ceux qui sont revenus. Mais le projet suscite aussi des interrogations. Les bâtiments historiques, les symboles religieux devaient-ils être les premiers à être rénovés dans une ville largement détruite? Ce n'était pas une priorité aux yeux du frère Rami Simon du couvent dominicain de Bagdad.
Nous, on a pour l'espoir. Mais nous étions contre de bâtir seulement l'église dans les ruines. On a compris qu'ils vont renouveler le quartier en partie. Je ne parle pas de toute la ville, il ne faut pas rêver. Mais quelques maisons autour, quelques magasins. Là, il y a un sens qu'on revit ensemble. Mais renouveler une église seule dans les ruines, ça sent mal pour nous. C'est pour nous contre-témoignage de notre foi dans un Dieu miséricordieux. C'est pourquoi on était promis que les gens vont profiter autour de nous. C'est très important qu'ils profitent. Renouveler leur maison, leur magasin, refaire leur route. Et puis voilà faire un parti d'un corps vivant qui est le quartier. On va sentir que nous sommes trahis s'ils ne vont pas faire ça. Et j'ai l'impression qu'ils ne vont pas faire ça.
Des inquiétudes qui ne sont pas justifiées, répond pour sa part le directeur de l'UNESCO dans le pays.
L'UNESCO fait sa partie. Sa partie, c'est celle de garder une idée d'identité culturelle et de garder une partie d'un centre historique. Je pense que là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de sauvegarder une petite partie de la Mossoul ancienne pour la léguer, en fait, aux générations qui viennent. C'est vrai, il y a beaucoup d'infrastructures à faire, il y a beaucoup de travaux à faire. Nous, on va faire cette partie du patrimoine. Donc, on va reconstruire de 200 maisons. Donc, il y aura quand même 200 familles qui vont vivre dans des maisons. Ce qu'on espère, c'est aussi que cette idée de faire revivre la partie historique de la ville, puisse amener des commerces, puisse amener des emplois.
Mais c'est un travail à long terme. Les travaux n'ont par exemple pas encore commencé sur le site de la mosquée El-Nouri. L'UNESCO espère que cela sera possible d'ici la fin de l'année, mais il faudra ensuite de nombreuses années pour mener ce projet à terme et l'efficacité de ce projet ne se mesurera pleinement qu'à l'issue.
La reconstruction de la vieille ville de Mossoul en Irak, c'était votre reportage. Merci Guilhem Deltey.
Merci Eric.
Un mois après l'extinction des incendies qui ont ravagé la Kabylie en Algérie, l'heure est au bilan, plus de 100 morts et des dizaines de milliers d'hectares de forêts détruits. Les sinistres, qui seraient d'origine criminelle selon le président Tebboune, ont déclenché une vague de solidarité dans toute l'Algérie et dans la diaspora. Zakia Merzouk, originaire de Kabylie, vit en région parisienne. Elle témoigne.
Oui, on a de la famille en Kabylie. Mais pour moi, toute la Kabylie, c'est de ma famille. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. On a des cousines, cousins, toute la famille.
Et vous y allez régulièrement ?
Une année sur deux. Pas vraiment régulièrement, mais une année sur deux.
Et alors, quelle situation connaissez-vous qu'on vous rapporte, que vos familles et vos amis vous rapportent de la situation en Kabylie aujourd'hui ?
Le plan d'incendie, franchement, on pense que ce n'est pas naturel, ce n'est pas une catastrophe naturelle. C'est criminel, ça c'est sûr. Mais après, il faut faire l'enquête pour voir comment et quand, voilà. Mais c'est vraiment, c'est très, très, très choquant de voir nos familles, nos parents, des enfants perdre leur famille, leur maison. Parce que c'est vraiment très, très difficile de construire une maison là-bas en Kabylie. En 20 ans, 25 ans peut-être pour construire une maison, en 24 heures, tout perdu d'un seul coup. La famille, la maison, les animaux, les arbres, les oliviers. Il y a des gens qui vivent dans les oliviers, dans l'agriculture, mais là, ils ont tout perdu.
D'habitude, les feux, il y en a en Kabylie, c'est plutôt dans la montagne ?
Oui, d'habitude, il y en a dans les montagnes, mais c'est naturel, c'est comme tous les pays du monde. La canicule, oui, mais pas vraiment dans les villages. Dans les villages, c'est vraiment, c'est la première fois. Autour des villages, on dirait que c'est encerclé autour des villages, dans les villages vraiment importants.
Mais ce que vous avez retenu, ce qu'on vous dit, c'est la solidarité entre les habitants.
Vraiment, la solidarité, franchement, on n'a jamais vu la solidarité. On dirait que c'est vraiment, ils sont les mêmes pères, les mêmes mères. On a tout donné, même si on n'a rien. On a donné nos maisons, nos habits. Il y a des gens qui vident leur armoire pour donner aux autres parce qu'ils sont tout perdus. On la ramène tout le monde dans les villages où il n'y a pas le feu. Nos jeunes, ils sont partis dans les montagnes où il y a le feu. On a récupéré tout le monde, des enfants, des femmes, tout le monde. On a laissé que les jeunes à se débrouiller, à atteindre le feu, parce qu'on n'a pas vraiment l'aide de l'État. L'État, il est absent. Mais heureusement, on a nous-mêmes, on se débrouille. Comme d'habitude, d'ailleurs, depuis des années, on se débrouille nous-mêmes. Et puis c'est tout, avec les moyens de bord.
Orient Hebdo sur RFI.
Comme chaque samedi, nous lisons maintenant la presse de la semaine avec Alexandre Bouchanti au Caire et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la tentative de coup d'État au Soudan est l'un des sujets largement traités dans la presse arabe.
Oui, et c'est surtout la tension politique qui règne dans le pays qui retient l'attention des journaux. Alors, civils et militaires s'accusent mutuellement de responsabilité dans le coup d'État avorté, notent les journaux. Pour la composante civile du pouvoir soudanais, ce sont les militaires qui sont responsables, puisque ceux qui ont tenté de renverser le pouvoir viennent de leur rang. 21 officiers et des centaines de soldats ont été arrêtés pour cette tentative de putsch. Les civils réclament un remaniement profond de l'institution militaire pour empêcher ce genre d'événement de se répéter et éventuellement de réussir. Mais les journaux notent aussi que, pour les militaires, l'autre composante du pouvoir, ce sont les civils qui sont responsables de la tentative de coup d'État à cause de leur incapacité à sortir le pays d'une crise économique qui provoque l'insatisfaction de toutes les composantes de la société. Selon l'enquête préliminaire, le coup d'État a été fomenté par des partisans du président déchu Omar al-Bashir, actuellement détenu et jugé. Par ailleurs, les journaux indiquent que le Soudan, qui a normalisé ses relations avec Israël au début de l'année, a annoncé avoir procédé à la saisie des avoirs d'une douzaine de sociétés qui appartenaient ou qui finançaient le mouvement islamiste palestinien Hamas.
Alors cette tentative de coup d'État est évidemment commentée dans la presse israélienne, Michel Paul, mais c'est un autre sujet qui fait la une. Les missiles intercepteurs de l'opération Dôme de Fer étaient en rupture de stock. Une aide américaine a été adoptée, mais les choses ont été plus compliquées que prévu.
Et oui, Eric, c'est le sujet qui a pris par surprise les Israéliens cette semaine. Alors, l'aile gauche du Parti démocrate américain se rebiffe, titre un quotidien. Il s'agit d'une assistance militaire spéciale présentée par le Congrès donc pour permettre le restockage du système d'interception de roquettes Dôme de fer. Pour commencer par la fin, le projet a été finalement adopté par la Chambre des représentants, mais dans un premier temps, il a été bloqué par le Squad, les quatre parlementaires de l'aile progressiste des démocrates, qui avaient réussi pendant un moment à bloquer le vote et à remettre en question le projet. Commentaire dans la presse israélienne, c'est fini le temps du soutien automatique du Congrès américain. Pour Haaretz, Biden est appelé à éteindre les incendies et la prochaine crise est déjà en vue. Il faut dire qu'il s'agit d'une assistance militaire d'un montant $1 milliard. Et dans la presse, on trouve cette image. La parlementaire Alexandria Ocasio-Cortez, connue par ses initiales AOC, la larme à l'œil après l'adoption du projet par la Chambre des représentants.
Alexandre, l'archéologie est à l'honneur en Arabie Saoudite à l'occasion du 91e anniversaire de la fondation du royaume.
Oui, et c'est une science qui, il y a moins d'une décennie, a été pratiquement mise à l'index par les chers wahhabites qui, en dehors de la poésie, vouaient aux gémonies ce qui précédait l'apparition de l'islam au 7e siècle. Des archéologues ont même évoqué la destruction de sites juifs et chrétiens par les inquisiteurs wahhabites. Mais depuis l'arrivée au pouvoir du roi Salman, et surtout depuis que son fils et héritier du trône, Mohammed bin Salman, est devenu l'homme fort du pays, l'Arabie a ouvert ses portes à la recherche archéologique, indiquent des éditorialistes. Et les découvertes se multiplient avec des sites vieux de près de 7000 ans. On a notamment trouvé des structures monumentales en pierre qui seraient des lieux de culte remontant au néolithique, ainsi que de nombreuses peintures et gravures rupestres d'hommes et d'animaux, ainsi que ce qui ressemble à une écriture primitive, indiquent les journaux.
En bref, Michel, d'autres sujets qui ont fait l'actualité en Israël cette semaine.
Toujours la bataille contre le coronavirus qu'Israël peine à surmonter. Dernière mesure contestée, les enseignants non vaccinés seront mis à pied et ce qui plus est, sans salaire, c'est la tempête, proclame Yedioth Ahronot. Les spécialistes mettent en garde le gouvernement, titre Maariv, les mesures prises ne sont pas suffisantes et même dangereuses. L'ancien premier ministre israélien Ehud Barak, dans une lettre ouverte, affirme que l'Iran est sur le point de se doter d'une arme nucléaire. À ce stade, dit-il, la négociation est superflue. Et il pointe un doigt accusateur vers deux personnalités, Benjamin Netanyahou et aussi Donald Trump. Les 100 jours du gouvernement Bennett, Israël est un peu plus normal, estime un commentateur. Un autre chroniqueur affirme que le premier ministre israélien a prouvé qu'il était un bon directeur, mais pas un leader politique.
Et pour finir, votre photo, Michel.
Eh bien, c'est la photo de Gerhard Conrad, surnommé Monsieur Hezbollah ou Monsieur Hamas. L'ancien espion allemand a servi de médiateur pendant plus de 30 ans entre Israël et ses organisations et a permis plusieurs échanges de prisonniers, notamment la libération du franco-israélien Gilad Shalit il y a tout juste 10 ans. Désormais à la retraite du BND, le service de renseignement allemand, il en profite pour accorder une série d'interviews aux médias en Israël.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani. Demain, nous recevons l'artiste franco-libanaise Yara Lapidus, avec qui nous parlerons de la situation au Liban et de la reconstruction de Beyrouth. Yara viendra avec une nouvelle chanson, Oumi Ya Beyrouth, single extrait de son nouvel album qui sortira le 21 janvier prochain.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Hey.
À demain donc, tout de suite, le journal en français facile.